Divergence FM, l'interview.
Toute cette semaine, nous parlons éducation et aujourd'hui, nous avons comme invité Alain-Georges Barbara. Il est salarié à l'association Hispanothèque de Montpellier qui fait la promotion de la langue espagnole et de la culture espagnole. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une association.
Hola.
C'est une association qui a été créée il y a combien de temps ?
Il y a en 2010. Elle a été créée par... ça fait 6-7 ans. Elle a été créée par la présidente, qui est toujours présidente. Et elle voulait... un des principes au début, c'était de créer une bibliothèque. Parce que quand elle allait dans les bibliothèques, bien sûr, c'est des livres français. Bon, il y a quelques livres, il y a quelques rayons, des fois, en espagnol. Mais ça manquait de livres, ça manquait de DVD, ça manquait de CD. Et donc, elle a décidé, et après, de faire connaître mieux l'Espagne. Parce que c'est vrai qu'ici, on connaît pas mal l'Espagne. On est à côté, on est voisins. Mmh. On est même des fois cousins. Mmh. Donc, on pense connaître bien l'Espagne. Mais l'Espagne, c'est autre chose que la corrida, le flamenco, la paella. Même si tout ça fait partie de l'Espagne. Hein. On refuse pas le flamenco. Quand on fait des spectacles, on fait aussi des spectacles de flamenco.
On fait pas de censure.
Voilà,
en tout cas, on essaie d'ouvrir.
Elle voulait ouvrir.
Et cette médiathèque, est-ce qu'elle existe maintenant ?
Elle existe, oui.
Elle existe.
On a deux sites, à Jacques Ier d'Aragon, donc on est logé par la mairie, sur le plateau Magellan, où il y avait, au début, il y avait beaucoup toutes les associations hispaniques et portugaises, et latino aussi, latino-américaines. Bon, maintenant, il y a un peu plus, il y a l'Institut Confucius, il y a un peu plus de monde, parce que les locaux doivent être chers. Et depuis cette année, on a ouvert un autre local aux Arceaux, rue Jacques Draparno.
D'accord. Et vous qui êtes salarié de l'association, vous voyez donc ces gens qui viennent à la médiathèque, c'est quel profil ? Ce sont des étudiants, des gens qui veulent apprendre l'espagnol ?
Les profils sont variés. On a bien sûr des étudiants qui veulent confirmer. Il y a des gens qui veulent aller étudier en Espagne, donc ils veulent une année, par exemple, ceux qui veulent faire des études de kiné à Gérone. Donc ils veulent un peu apprendre l'espagnol avant.
Pourquoi ils iraient en Espagne pour faire des études de kiné ?
Il y a beaucoup.
Il y a de bonnes écoles en France ?
Oui, il y a de bonnes écoles, mais il doit y avoir des histoires de cursus...
Peut-être que l'accès est peut-être plus facile en Espagne qu'en France, où la sélection est pas
connue. Il y a beaucoup d'enfants, de Français qui vont étudier à Gérone. Et donc ils veulent apprendre l'espagnol un peu avant d'arriver. Et après, on a une partie importante aussi de français maintenant, mais c'est la deuxième ou troisième génération d'Espagnols qui sont venus suite à la guerre civile, à la fin ou pendant le franquisme, qui ont quitté l'Espagne, soit pour des motifs économiques.
Donc c'est ces républicains venus réfugiés en France.
En France.
Et pourtant, la troisième génération, elle ne parle pas espagnol.
Voilà, c'est une particularité espagnole. Quand les Espagnols sont venus en France, ils se sont francisés. Ils ont voulu couper avec l'Espagne, et donc ils
une
ont
volonté de s'intégrer.
Une volonté de plus rapidement. Donc même il y a des prénoms français au lieu d'avoir des prénoms espagnols, ils ont francisé les prénoms. Et surtout, ils n'ont pas toujours raconté ce qui s'est passé pendant la guerre. Et après, ils n'auront pas parlé espagnol. Et là, il y a des gens de 40, 50 ans. Qui viennent apprendre l'espagnol. Ou alors des plus jeunes, bien sûr, qui ont... quand je les inscris, je vois la filiation. Hein,
et justement, est-ce qu'ils veulent essayer de comprendre ce qui s'est passé pour leurs grands-parents quand ils ont quitté l'Espagne ? Est-ce que, par exemple, dans votre médiathèque, vous avez des documents qui permettent de mieux comprendre cette partie de l'histoire ?
On a des livres historiques aussi, mais on n'a pas trop accès... parce que on essaie aussi de regarder vers l'avenir. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent chercher des livres d'histoire, savoir un peu, parce qu'il y a beaucoup, d'auteurs comme Cervera, comme beaucoup de gens qui ont écrit sur la guerre d'Espagne, et les gens lisent, mais ça a été un peu pareil. Alors on va pas comparer, mais les gens qui sont sortis des camps d'extermination aussi. Ils n'ont pas raconté à leurs enfants ce qui s'est passé. Quand les gens racontent la Shoah, ils n'ont pas expliqué à leurs enfants ce qui s'était passé exactement. Il a fallu faire des travaux de recherche, travailler. Alors, c'est un peu similaire. Les gens ont...
On canassait leur mémoire.
Sur, et il y en a qui disent, mon grand-père, il ne nous parlait jamais d'Espagne. Sur, alors qu'ils ont des noms, je vous dis, qu'ils sont espagnols. On a créé la présidente avec deux, trois personnes, on crée cette association que j'ai rejoint assez rapidement. Ensuite, on a ajouté les langues.
Alors justement,
l'apprentissage de la langue.
Ces personnes qui s'inscrivent dans ces cours d'espagnol, il y a plusieurs associations à Montpellier qui proposent des cours d'espagnol. Quelle est la spécificité de votre association pour ces cours d'espagnol? Qu'est-ce qu'il y a de plus, de différent par rapport aux autres?
Alors déjà, on a des professeurs qui sont diplômés d'espagnol langue étrangère. Donc on a des gens de qualité, hein, les professeurs qu'on a. Alors on a des professeurs espagnols ou des professeurs latino-américains. Ils sont tous natifs, ils sont tous hispanophones. Donc déjà, je crois que c'est un gage de qualité. Parce que bon, il y a des gens qui parlent un peu espagnol et qui font au cours. Hein,
Est-ce que c'est la pédagogie qu'on a reçue au collège, assez transmissive dans
dans vos classes? Alors, leur cours, bon, moi je suis plutôt administratif, financier, moi c'est plus la compta. Je vois passer les livres et tout ça, et après je discute avec des élèves ou je discute avec les professeurs. C'est beaucoup basé sur l'oral.
Et sur la vie quotidienne,
sur la
par
vie
exemple,
quotidienne,
les situations concrètes que les gens rencontrent.
Et après, au-delà de ces cours, donc on a à peu près 130 élèves quand même, maintenant, on a été obligé de rajouter un cours pour débutants, ce qu'on a rajouté avec l'association, c'est tout l'immersion autour. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre une langue, mais si vous ne la pratiquez pas, ça ne sert un peu à rien.
Alors comment faire pour s'immerger dans cette langue?
Soit aller toutes les semaines à Barcelone, tous les week-ends, mais bon, ça, ce n'est pas possible.
Mais est-ce que c'est vraiment la langue enseignée?
Non, parce que c'est le catalan. Mais bon, quelqu'un qui parle castillan...
Sujet un peu brûlant en ce moment.
Oui, c'est un peu brûlant. Mais bon, quelqu'un qui parle castillan, en plus si vous êtes français, vous parlez castillan, même un catalan vous répondra en castillan. Moi, je n'ai jamais eu de problème de ce genre. Alors, l'immersion, on le fait sur plusieurs formes. On propose un film par trimestre en espagnol sous-titré français, à la Maison pour tous, Albert Camus. Le prochain, c'est la semaine prochaine, c'est El Chino, un film argentin. Ensuite, on a des tandems.
Alors, ces tandems?
Les tandems, c'est deux fois par semaine. On le fait avec une autre association. Une fois chez CESE en début de mois et en fin de mois chez nous. Où on mélange des hispanophones et des francophones. Et l'animatrice va dire, par exemple, pendant 10 minutes, tout le monde parle espagnol. Ou tout le monde parle français. Ou les français parlent espagnol et les espagnols parlent français.
Et pour un débutant, c'est pas de le mettre en difficulté?
Non, parce que les gens que vous avez avec vous, par exemple, il va y avoir des Mexicains, il va y avoir des Colombiens, des Vénézuéliens, qui ont aussi un peu de difficultés. Donc chacun apprend. Et si vous utilisez une expression en espagnol, on va dire non. Cette expression en espagnol, on ne le dit pas comme ça. En castillan, on dit plutôt ça que ça. Par exemple, tu vas pas à Montpellier, tu vas en Montpellier. Il y a des petits mots comme ça.
Des petites corrections pour les débutants. Peut-être intéressantes. Il y a une grande fête, la Fiesta de la Tortilla. Oui. 400 personnes, ça a connu un grand succès. Et c'est votre association qui l'a organisée.
Oui, on l'a organisée, ça fait 4e, 5e. Au début, c'était le concours international des tortillas, international, parce qu'il y a des Français et des Espagnols. Et maintenant, c'est la Fiesta de la Tortilla.
Alors, c'est quoi le but?
Le but, c'est que les gens arrivent avec une tortilla qu'ils ont faite chez eux. Parce qu'on n'a pas encore la possibilité, comme en Espagne, il y a des concours de paella où les gens font ça sur un terrain de foot ou dans la place du village. Bon, nous, on n'a pas la possibilité ici. Donc, ils arrivent avec leur tortilla et on la vend, nous. Voilà, ça nous fait un peu de revenus. On la vend aux gens. Alors, il y a deux concours. Dans cette fête de la tortilla, il y a deux concours. Un concours de tortilla traditionnelle, avec les pommes de terre, les oignons, l'huile, les œufs. Et après, un autre concours, c'est le toque des jefe.
La toque du chef.
Voilà. On a eu des tortillas rouges, parce qu'ils avaient mis le colorant alimentaire. Après, il y a des gens qui peuvent mettre des aubergines, qui peuvent mettre des différentes épices. Une fois, il y en a un qui nous a amené des verrines. Il avait revisité la tortilla avec un morceau d'œuf, un morceau de pomme de terre. sur et après, bien sûr, on a un concert. Cette année, on a pris un orchestre de Barcelone. Sur, l'an dernier, c'était de la guitare flamenca. Sur, donc, il y a toujours y a un concert. Sur, c'est une petite verbena. Verbena, c'est la fête. C'est une kermesse, si vous voulez, en espagnol.
Alors, pour libérer votre créativité culinaire, c'est quand le prochain rendez-vous de la fête de la tortilla?
C'est fin mai.
C'est fin mai.
Donc très là, bien. Là c'est comme ça avec la Maison pour tous, Albert Camus, il faut qu'on on voit avec les dates. Avec,
Toujours des possibilités d'inscription pour vos cours ou c'est terminé?
Dans les classes supérieures un peu, sur les débutants, c'est parce qu'on ne veut pas avoir plus de 12 élèves. Parce qu'après, bon, il faut que tout le monde puisse discuter. Mais peut-être on va rouvrir un cours de débutants début janvier.
Très bien. Donc nous étions avec un des salariés de l'association Hispanothèque de Montpellier. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour certains cours.
Pour certains cours, oui.
Merci.
Ben de rien. Bonne journée.